Auditeur de Radio Gémozo, je suis Lia et je suis en direct avec toi depuis l'odeur du son, fil rouge de cette émission Souvenirs, Résilience et Paysages Vosgiens. J'ai la chance de discuter aujourd'hui avec Françoise Valentin qui a récemment reçu le prix de la Plume de Verre pour son premier roman La Petite Maison Bleue. Mais avant de l'accueillir, c'est l'heure des actus qui donnent le smile. Cet été, à Strasbourg, les enfants les plus précaires pourront aller gratuitement au centre de loisirs. Le Parlement français adopte une loi contre l'ultra fast fashion visant Shein, Temu et AliExpress. Pour éviter la chaleur, un ingénieur français, Rennais, crée une application pour calculer les meilleurs itinéraires à l'ombre, baptisée Fréchou. Merci pour l'info, Joe. Aujourd'hui, on entre dans un livre comme on entre dans une maison avec Françoise Valentin. Bonjour Françoise.
Bonjour.
Comment ça va ?
Bien, merci.
Je suis ravie de vous accueillir dans les studios de Radio Gémozo. C'est une première pour vous ?
Oui.
Voilà, super. D'où vous venez ?
Alors, je suis au départ de région parisienne.
Oui.
Et puis je me suis installée dans les Vosges il y a 8 ans maintenant pour ma retraite.
C'est tout le sujet de ce livre, je crois. Quelle actualité vous a le plus donné le smile sur les 3 que j'ai cités juste avant ?
Ah, la loi contre l'ultra fast fashion.
Mais ouais.
Mon fils travaille dans la mode, donc voilà, il m'a sensibilisée à ça.
Ah bah c'est très bien ça. Comment il s'appelle votre fils ?
Théo.
Eh ben on t'embrasse Théo, voilà. Françoise, vous êtes aujourd'hui dans l'odeur du son, d'où cette première question. Est-ce que le son a une odeur selon vous ?
Ah bah c'est une question qui me perturbe un peu, mais qui mange. Je m'y attendais pas.
La petite Madeleine de Proust, quoi.
Oui, bah c'est plus le goût plutôt que le son.
Deuxième question incontournable de cette émission. Si vous deviez vous présenter avec vos propres mots à vous, ça donnerait quoi ?
Ah, je dirais sensibilité, nature et poésie.
Un beau combo, ça. Aujourd'hui, on discute ensemble de votre roman La Petite Maison Bleue, la maison de vos grands-parents dans les Vosges.
C'est ça.
Dans ce livre est abritée une grande partie de votre histoire de vie. Mais pour contextualiser, à quelle époque débute ce livre ?
Dans les années 60.
Vous étiez enfant à ce moment-là.
Je suis née en 59, donc je parle de mon enfance et bon, dès ma naissance, il y a eu des petits soucis.
Dès la naissance.
À partir du moment où j'ai commencé à être autonome, disons à 18 mois, 2 ans, effectivement, j'ai été confrontée à des difficultés face à mon frère.
Ouais. Ce roman, il souffle sur une mise à nu. Qu'est-ce qui, à un moment donné dans votre vie, a rendu l'écriture de ce récit autobiographique, non seulement possible, mais peut-être absolument nécessaire?
Étant donné ce que j'ai vécu quand j'ai eu à peu près 30 ans, je ne veux pas dévoiler la fin de l'histoire. Mais effectivement, j'ai vécu des moments douloureux et donc j'ai fait une thérapie pour m'en sortir. Ouais. J'ai pris sur moi de reconstruire ma vie. Et à l'issue de cette thérapie, j'ai éprouvé le besoin de raconter ce que j'avais vécu.
Votre livre s'ancre profondément dans la géographie d'une vallée vosgienne aussi. Hein,
oui.
En vous lisant, on a l'impression que ce paysage, il n'est pas un simple décor, mais aussi un personnage à part entière.
Exactement.
Ouais. Quel rôle a joué cette nature dans votre histoire ?
Eh bien, je partais en vacances chez mes grands-parents tous les étés, dans cette maison, dans cette petite vallée. Et pour moi, c'était un havre de paix. Et ça me permettait de me sortir d'un contexte familial difficile.
Oui.
Mes grands-parents me sortaient d'un endroit conflictuel avec mes parents.
Oui.
Et je pouvais renaître dans cette nature, dans cette petite maison, sous le regard bienveillant et compréhensif de mes grands-parents.
Alors, les Vosges que vous idéalisiez, mais qui ne vous ont pas conquises lors de votre première rencontre quand même, vous avez été un petit peu effrayée.
Ah bah dans ma petite enfance, effectivement, je me suis retrouvée, moi j'étais parisienne, donc dans un endroit très protégé, et je me suis retrouvée propulsée dans une nature dont j'ignorais tout.
Ouais.
Voilà, donc dans les herbes folles, il y avait les araignées, il y avait les thons, il y avait les chenilles, il y avait des gros orages qui étaient répercutés par les montagnes. Et au début, j'ai mal vécu mon premier séjour.
Oui, oui.
Et puis, quand j'ai quitté la maison, je me suis dit, bon, il y avait quand même un petit quelque chose, mais j'étais trop jeune pour mettre des mots sur ce que j'avais pu ressentir.
Oui.
Et au fur et à mesure des années, eh bien, j'ai aimé revenir dans cette maison.
À quel âge vous y êtes allée la toute première fois, alors vraiment toute petite hein,
Oui, toute petite, je devais avoir 4 ou 5 ans, puisque j'avais des soucis de santé et que mes parents ont jugé bon de m'envoyer dans cette petite vallée pour me refaire une santé respiratoire, je dirais, dans l'air pur.
Et votre frère, c'est lui qui est allé la toute première fois dans cette petite maison bleue. On vous avait dit qu'il partait en colonie et vous avez compris au fur et à mesure qu'en fait, c'était pas tout à fait ça. Et vous aviez vraiment idéalisé cette petite maison bleue.
Et oui, bon, moi, à 3-4 ans, je vivais dans les contes de Walt Disney, évidemment. Et je me suis imaginé que cette petite maison bleue, c'était la chaumière de Blanche-Neige, que c'était absolument magnifique. Et quand on m'y a envoyé, effectivement, il y a eu un gros décalage.
Ouais,
et
ouais.
Je me suis retrouvée déçue, effrayée de voir que ce que j'avais imaginé ne correspondait pas du tout à la réalité.
Beaucoup d'enfants encore aujourd'hui, très citadins, parisiens parfois, n'ont aucune connaissance de ce qui se passe dans les campagnes, dans les montagnes, etc. Hein, c'est quelque chose qui existe encore.
Tout à fait. Puis j'avais un père qui avait un certain mépris pour tout ce qui était campagnard. Lui, il était, c'était un urbain, un citadin de cœur et il comprenait pas de toute façon qu'on puisse aimer la nature. Donc, je n'ai jamais été initiée à approcher la nature de cette façon. C'est à mon grand-père, qui lui était un Vosgien de pure souche, et qui m'a petit à petit apprivoisée, qui m'a fait découvrir les beautés de la nature vosgienne.
Et votre grand-père, il était originaire d'où alors dans les Vosges ?
Il était originaire de ce petit hameau. Voilà, donc c'est sa maison, en fait.
Ok, mais où exactement ? Vous vouliez peut-être pas le dire ?
C'est près de Colroy-la-Grande.
Ok, d'accord. Petite, même si vous habitiez à Paris, dans la région parisienne, vous aimiez quand même déjà la nature parce que vous aimiez beaucoup les fleurs, etc.
Voilà, c'est pour ça que je parlais de ma sensibilité personnelle. Ouais. Voilà, j'avais toujours une extrême sensibilité pour tout d'ailleurs. J'étais une émotive née. Et c'est vrai, quand je me suis retrouvée toute seule dans le jardin, que mon frère était parti, lui, dans les Vosges, je regardais les fleurs, je trouvais que les gueules de loup ressemblaient à des petites bouches qu'on pouvait ouvrir en appuyant sur les joues. J'avais quand même cette sensibilité poétique par rapport aux beautés de la nature.
Est-ce que ça vous est resté, sa question rhétorique, l'amour des fleurs et de la nature ?
Ah oui, tout à fait. J'ai un petit jardin et donc je fais pousser des fleurs. Je ne fais pas pousser de légumes, mais j'adore les fleurs.
Ah ouais, c'est magnifique les fleurs, c'est très poétique. Ces Vosges d'ailleurs que vous avez représentées sur la couverture, c'est l'une de vos aquarelles que l'on retrouve sur cette première.
Tout à fait.
Ouais. Donc vous n'êtes pas seulement écrivaine, vous êtes aussi artiste peintre.
Exactement, je fais un tout petit peu d'aquarelle. Maintenant, je fais surtout du pastel, mais ça, effectivement, là, c'est une aquarelle que j'ai réalisée avec ce petit ruisseau, la prairie, la montagne, ce paysage que j'adore, en fait. J'adore les Vosges.
Vous avez commencé par écrire ou par peindre ?
Ça s'est fait quasiment simultanément.
Oh, c'est incroyable !
Voilà, suite à ma thérapie, en fait, j'ai quelqu'un qui m'a guidée, qui m'a dit, mais vu ton potentiel, cherche ta voie. Et en fait, je suis partie dans les deux sens. À la fois l'expression artistique visuelle, mais j'étais professeure de français et j'adorais jouer avec les mots.
Il y a un parallèle entre la peinture et l'écriture quant au le fait de livrer un petit peu ses émotions dans un art.
Tout à fait. Les outils sont différents. D'un côté, on a les pinceaux et les crayons. De l'autre côté, on a les mots. Mais en fait, on cherche à transcrire une émotion dans tous les cas.
Et qu'est-ce qui vous fait le plus de bien à vous ? Les deux, j'imagine.
Ah, les deux. Je ne peux pas choisir. C'est impossible.
On se lance tout de suite dans mon premier disque chouchou avant de continuer cette discussion avec Françoise. C'est une playlist presque spéciale maison que je vous ai trouvée aujourd'hui. Et on commence tout de suite par Dalida. Et ce titre, La Petite Maison Bleue, bien entendu.
Petite maison bleue est envahie de silence, la maison de mon enfance. me fait mal quand je la vois. C'est pourtant plus fort que moi. J'y retournerai sans doute. Je reprendrai cette route qui mène à mes souvenirs. Petite maison bleue, à mes yeux reste la même. C'est ici que ce que j'aime ont connu des jours heureux. Ma jeunesse est restée. Ce jardin, la petite maison bleue, est envahie de tristesse, mais elle est pour moi comme même, la maison des jours heureux, la maison des jours heureux.
Dalida. Quel plaisir de réécouter cette artiste fabuleuse. Françoise, ça vous a plu ?
Ah oui, beaucoup, je la connaissais, cette chanson. Oui. Mais je l'ai découverte après avoir donné le titre à mon roman.
Justement, j'allais vous demander, parce qu'on aurait dit qu'elle était écrite pour vous, cette chanson.
Et quand,
c'est incroyable.
C'est une amie qui m'a dit, mais tu ne connais pas la chanson de Dalida ? Bon, je dis, pas celle-là, non, j'en connais d'autres. Et depuis que je l'ai écoutée, je trouve que ça correspond vraiment à ce que j'ai voulu transmettre dans mon roman.
Tout à fait. Est-ce que justement la musique fait partie dans votre création ? Est-ce que vous écrivez en musique ? Est-ce que vous peignez en musique peut-être ?
Je peins en musique, oui.
Ouais. Et l'écriture plutôt dans le silence ?
Plutôt dans le silence pour écouter mes émotions.
Ah, oh, c'est beau ça.
Oui.
Combien de temps ça vous a pris pour écrire ce roman ?
Presque 3 ans.
Ah ouais ?
Oui,
c'est
parce qu'il y a des choses que je n'osais pas exprimer ou regarder en face.
Il
y a un moment douloureux dans le livre que j'avais du mal à surmonter.
Oui.
Et cette partie-là du livre est restée longtemps en attente.
En suspens, oui. Et comment vous avez dépassé justement cette douleur pour pouvoir l'écrire ?
Bah, c'est en fait l'aide que j'ai eue en thérapie. Et puis après, on a en soi une douleur qui s'atténue et avec laquelle on apprend à vivre et avec laquelle on grandit.
Oui. C'est une vraie thérapie quand même, l'écriture.
Aussi, oui. Ça a été le prolongement.
Oui. Mais parfois, j'imagine que ça peut soulever des choses et rester un moment en soi, quoi, quand on se met face à tout ça.
Oui, parce que quand vous commencez à travailler sur un point, vous en découvrez un autre. C'est comme les pelures d'un oignon. Plus vous creusez, plus vous apercevez qu'il y a des choses profondes. Et c'est vrai que j'avais aussi des éléments à régler avec mes parents.
Oui.
Puisqu'ils ont fait ce qu'ils ont pu, je n'ai pas de colère par rapport à eux, mais ils ne pouvaient pas faire plus. Voilà, c'était leur histoire aussi, et moi j'en ai souffert.
Est-ce que votre famille a eu connaissance de ce livre ?
Mon père est décédé il y a longtemps, quand j'avais 20 ans, donc non.
Oui.
Et ma mère, je ne lui ai pas fait lire.
Ah oui.
Je ne lui ai pas fait lire parce que j'avais peur que ça la fasse souffrir.
Oui.
Parce que sincèrement, elle a fait ce qu'elle a pu. Elle avait son histoire à elle aussi. Et non, je n'ai pas pu lui faire lire.
Okay.
Je ne tenais pas à ce qu'elle se sente coupable. Et le but d'une thérapie, c'est après de pouvoir vivre en paix avec les gens qu'on aime. Et j'ai vécu après 25 ans en très bons termes avec ma mère.
Oui, oui.
Elle a été même une grand-mère formidable pour mon fils. Donc voilà.
Et justement, votre fils, il a lu ?
Non, il n'a pas lu parce qu'il connaît l'histoire, mais ça n'est pas un grand lecteur.
Ok. Peut-être qu'un jour ça viendra.
Voilà, c'est ça.
Le fil rouge de cette émission, on l'a compris, ben c'est le souvenir. La mémoire, c'est un matériau malléable, parfois trompeur, justement, on en parlait à l'instant. Comment avez-vous travaillé avec vos propres souvenirs? Est-ce que vous avez cherché la vérité brute des faits ou plutôt la vérité des sensations et des émotions de l'époque?
Alors, j'ai cherché la vérité des sensations. Étant très émotive, j'avais quand même beaucoup de souvenirs qui me marquaient. Donc, tout ce que je raconte est vrai. Ce que j'ai vécu avec mes parents, avec mon grand-père, avec mon frère, rien n'est imaginé. Mais par contre, chaque fois que je retranscrivais un événement, je voulais l'associer à une émotion. Faire sentir au lecteur ce que j'avais pu vivre à l'époque.
C'est réussi.
Mais de temps en temps, j'y mets de l'humour aussi. Je prends du recul par rapport à cette petite fille qui a vécu les choses à son niveau, à l'âge qu'elle avait. Voilà, donc il y a beaucoup d'émotions. Il y a aussi de la prise de distance par rapport à cette petite fille que j'ai été et qui a grandi depuis.
Oui, oui. On parle beaucoup d'enfant intérieur. Au final, là, vous l'avez rencontré, votre enfant.
Oui, tout à fait. Ouais. Et je pense que je l'ai soigné, cet enfant.
Mais voilà. Est-ce que certains souvenirs sont remontés à la surface, certains souvenirs que vous auriez oubliés?
Au fur et à mesure qu'on écrit, oui. Il y a des choses qu'on a un peu gommées et puis qui finissent par remonter à la surface. Oui. Pas toujours agréable.
Pas toujours agréable.
Parfois, au contraire, on a de belles surprises. On se dit, tiens, ça, je l'avais oublié, c'est merveilleux.
Est-ce que vous avez pris des supports photos ou est-ce que vraiment tout est resté intact dans votre tête?
Alors, la photo qui est au dos du livre, la quatrième de couverture, c'est mon frère et moi. Et je l'ai retrouvée en feuilletant un album photo de ma mère. Et je me suis dit, ça résume tout à fait notre relation à tous les deux. Le grand frère qui se désintéresse de la petite sœur qui voudrait absolument jouer avec le grand frère.
Oui,
qui tente un contact, mais ce contact n'est pas possible.
Justement, dès le début de votre roman, vous parlez de conflits récurrents avec votre frère et de votre insatiable quête pour trouver votre place au sein du foyer.
Oui, mais disons, mon frère a été tellement adulé que moi, quand je suis arrivée, j'étais dans l'ombre de ce frère.
Oui.
Et je ne pouvais pas me faire voir. On me voyait toujours comme la petite sœur. Voilà, ma mère, de façon tout à fait inconsciente de la gravité de ce qu'elle disait, me racontait, ton frère, ça me suffisait.
Ah, voilà. Ok.
Donc, moi, je suis arrivée, en fait, je n'étais pas franchement désirée. Je suis un accident, en quelque sorte. Ma mère voulait retravailler au bout des 3 ans durant lesquels elle s'était arrêtée pour élever mon frère. Elle était parfaitement heureuse avec ce garçon providentiel. Et moi, je suis arrivée par accident, donc elle n'a pas pu reprendre son travail. Donc, j'ai été un peu gênante. Et puis, j'ai été gênante pour le frère qui, lui, avait vécu comme un petit roi, un petit prince, le centre de la famille. Il a fallu qu'il partage cette place avec moi. Et pour lui, ça a été insupportable.
Et puis à l'époque, on ne prenait pas spécialement conscience aussi de comment on pouvait amener les enfants à accueillir au mieux les choses.
Exactement. Lui n'a pas été préparé visiblement et dans son esprit, il fallait m'évincer.
Il avait quel âge votre frère quand vous êtes né?
Il avait 3 ans.
Ah oui, il était petit. On le voit tout au long de votre livre, ça a vraiment laissé une grosse empreinte ce début de vie sur vous.
Ah oui, tout à fait, parce que pendant des années, même au-delà de l'adolescence, je n'avais pas confiance en moi. J'avais l'impression que j'étais fade, que j'étais inintéressante, que je ne pouvais pas... je réussissais mes études, mais mon frère étant scientifique, moi, je m'interdisais d'être bonne en maths. Donc, j'avais beaucoup de difficultés en maths. Donc, heureusement, j'ai pu briller un peu dans le domaine littéraire. Mais même quand j'ai réussi mes études en tant que professeur de français, j'avais une peur maladive de l'échec. J'avais un manque de confiance, terrible, parce que je n'avais pas trouvé ma place. On ne m'avait pas vue dans cette famille.
Et est-ce qu'un jour, c'est arrivé?
Qu'on me voit?
Oui.
Quand j'ai terminé ma thérapie, que j'ai grandi, que j'ai soigné cette petite enfant, j'ai retrouvé auprès de ma mère, elle m'a découverte en fait.
Oui. Le déchirement complexe d'une relation fraternelle, c'est un sujet tabou qui est souvent occulté par le mythe de l'amour fraternel inconditionnel. C'était important pour vous de sonder cette complexité de liens de sang aussi?
Oui, c'était important parce que Là non plus, je ne veux pas dévoiler la suite de l'histoire, mais est venu un moment où on a construit une relation extraordinaire, lui et moi. Et j'ai voulu explorer cette relation. Tous les frères et sœurs n'ont pas ce lien-là. Et on m'a renvoyé dans mon histoire le fait que ce n'était pas normal d'être attachés l'un à l'autre comme ça.
D'accord.
J'ai eu des réflexions en disant, bon, bah, c'était ton frère, voilà. Et ce n'est pas toujours facile d'exprimer ce qui peut lier un frère et une sœur quand on n'est pas jumeaux. On le comprend pour les jumeaux. Et en fait, ce qui s'est passé avec nous, c'est qu'on avait 3 ans de différence. Et malgré tout, on a créé une relation de gémellité.
Oui, c'est ce que vous dites à un moment donné.
Ce qui fait que parfois, il s'exprimait de façon incomplète et je comprenais. Mais les gens qui étaient autour de nous ne comprenaient pas. Voilà, on avait effectivement un mode de communication qui passait par l'émotion, par le non-dit, parce qu'on avait un vécu commun.
Et c'est beau, très beau. On continue, c'est plein d'émotions cette émission, c'est On continue avec mon prochain disque chouchou, Maison Pierrot, pour le titre Le Temps Libre, et on se retrouve juste après. Poétique ce petit son. Vous avez aimé Françoise ?
Tout à fait.
On continue avec La Petite Maison Bleue, votre tout premier roman, mais vous m'aviez dit tout à l'heure que vous aviez déjà écrit d'autres choses quand même.
Oui, j'ai écrit 2 romans policiers.
Ah ouais ?
Qui se passent aussi dans les Vosges.
Mais c'est incroyable ça. Ok, qui ont été édités ?
En auto-édition, okay. comme le premier.
Ok, d'accord. Que l'on retrouve où alors ?
Alors, à Remiremont, puisque j'habite Remiremont, à la librairie Posez-vous et à la librairie Lire et Écrire.
Super. Sur Internet, on peut aussi ou pas ?
Oui, sur le site bookelis.com.
Ok, on mettra tous les liens pour que vous puissiez, auditeurs, retrouver tous les ouvrages de Françoise. Alors, comment vous étiez passée d'un récit autobiographique à l'envie d'écrire un roman policier ?
Eh bien, en fait, il y a 2 facettes en moi.
Ouais.
Il y a la personne très sensible, poète, voilà. Mais il y a aussi une personne qui aime rire, qui aime jongler avec les mots. Oui. Et donc, ce sont 2 policiers particuliers, puisque j'associe l'enquête policière, mais l'humour. Voilà, ce sont des policiers qui aiment jouer sur les mots, qui ont une forme d'humour particulière, qui sont très efficaces, mais qui aiment rire.
Peut-être que vous viendrez nous en parler dans une prochaine émission.
Eh bien, volontiers.
Est-ce que vos élèves, vous étiez prof de lettres, prof de français, est-ce que vous les ameniez à l'écriture ?
Je les amenais surtout à aimer les grands auteurs. J'aimais beaucoup Victor Hugo, Émile Zola. Voilà. Donc, chaque fois que j'ai pu... Je leur faisais découvrir la beauté de l'écriture, le choix des mots, les figures de style, la façon de transmettre une émotion.
On repart dans la petite maison bleue. Les maisons d'enfance gardent les bruits, mais elles gardent aussi parfois les silences. Dans votre écriture, le non-dit occupe une place importante. Comment fait-on en tant qu'écrivaine pour faire parler le silence ?
Avec les mots, avec les images, souvent les métaphores, font à la fois voir et sentir. Et donc, c'est vrai qu'il faut choisir la tournure des phrases, le rythme, pour faire sentir quand justement, quand cette petite maison, elle est abandonnée, qu'elle est en train de mourir, j'ai choisi les mots qui correspondaient pour suggérer à la fois les odeurs, la laine de cette maison qui est malade. Et même chose, quand elle se sent bien, j'ai fait la même chose.
Oui,
pour dit que cette petite maison, elle ronronne quand, quand le foyer, quand le fourneau est en train de brûler, qu'il y a un bon feu, eh bien, la maison se met à craquer, à ronronner, à s'étaler comme un chat, finalement.
Moi, les non-dits, ils m'ont percuté plutôt au début du roman où on comprend très rapidement qu'en fait, vous êtes une enfant ou une famille dans laquelle on ne parle pas trop, on n'explique pas vraiment les choses.
Ah non, rien du tout, on n'exprimait pas. On n'exprimait pas, mais on était censé savoir. C'est ça qui est très, très contradictoire. Ouais. Moi, il y a des fois, j'attendais des réponses ou bien je disais ce qui se passait avec mon frère qui me tourmentait quand même. Pendant longtemps, il a été quand même assez sadique, mais je n'avais pas de traces sur le corps. C'était plus de la souffrance psychologique. Mais jamais je n'ai pu le formuler ou me faire entendre auprès de mes parents. Bon, mon père était tyrannique, donc de toute façon, j'avais peur de lui. Mais ma mère était plus douce et je pensais qu'elle aurait entendu cette souffrance. Et en fait, non, elle ne voyait pas... On me faisait passer pour la petite fille grincheuse, géniarde, chouinarde, voilà. On disait, bon, bah, c'est une fille, quoi. Voilà.
C'est une autre époque, quand même. Hein.
C'est une autre époque. Ouais, ouais. Et j'ai beaucoup compté sur ma grand-mère, justement, qui était donc la mère de ma mère. Et à un moment, bah, elle a bien vu ce qui se passait, puisqu'elle nous gardait. Mes grands-parents allaient nous chercher à l'école, ils nous faisaient faire les devoirs, ils ont une présence extraordinaire. Ouais. Donc, ils voyaient comment les choses se passaient. Et je me rappelle avoir entendu ma grand-mère, et je le raconte, voir ma mère et dire que mon frère n'était pas très gentil avec moi, qu'il se passait des choses. Et je suis restée dans l'attente, l'attente d'une réaction. Et c'est resté lettre morte. Personne n'a jamais, à part mes grands-parents, entendu ce qui se passait.
Et pourquoi, selon vous, on ne voulait pas voir ça?
Ben, je pense que c'était dérangeant ou que... Voilà, c'était peut-être inimaginable pour ma mère. Elle ne pouvait pas penser qu'un enfant qui avait une gueule d'ange, comme était mon frère, il était très beau, il était... voilà, il séduisait tout le monde. On ne pouvait pas imaginer qu'un enfant comme ça pouvait se transformer en tyran face à sa petite sœur. C'était des gamineries, en fait. Frères et sœurs, on se dispute.
On se chamaille.
Et ma mère était fille unique, donc je pense que ça ne l'a pas aidée. Elle n'a pas perçu ce qui pouvait se passer entre frères et sœurs.
Tout à fait. Il y a quelque chose aussi dans votre roman, il n'y a pas de prénom. On ne sait pas comment se nomme... votre frère, votre mère.
Effectivement, je n'ai pas voulu le dire. J'aurais pu, j'ai des amis qui m'ont dit la même chose, qui m'ont dit, mais tu pouvais donner le nom. Non, j'ai voulu le laisser.
Voilà, vous le gardez précieusement.
Oui.
Voilà, ça vous appartient.
Oui.
L'un des héros de votre roman, selon moi, c'est un peu votre grand-père aussi.
Oui, c'est mon grand-père.
Ouais.
Le roman, je le dédie à mon frère et mes grands-parents. Mais j'ai une relation particulière avec ce grand-père.
Ouais. Qui s'est construit à partir du moment où vous avez été dans la petite maison bleue.
Voilà, parce que lui était Vosgien, ma grand-mère était Lorraine, mais lui, il était Vosgien pur souche. C'était sa vallée, c'était sa maison, et il a su me consoler en me montrant les beautés de la nature. Voilà, il avait cette simplicité, comme sont beaucoup de paysans vosgiens. Voilà, il m'a ramenée au plaisir simple.
Oui.
Et ça, ça m'a aidée à guérir parce que, voilà, une fleur, la nature, une promenade, enfin bon, ça apporte tellement de bienfaits.
Et puis, ça réconcilie avec l'adulte aussi.
Oui.
Quelqu'un en qui vous pouviez avoir confiance.
Exactement.
En plus, de sexe masculin, parce que c'était compliqué avec votre père, avec votre frère. Il y a quand même possibilité de... devenir un petit peu...
Voilà, ça a été une image masculine positive. Voilà, et quand j'avais des difficultés à l'école, parce que les émotions étaient tellement fortes dans ce qui se passait à la maison, entre la tyrannie de mon frère, l'autorité abusive de mon père, que moi, j'étais complètement écrasée par ce qui se passait et je n'avais pas de vie propre. Donc ça me perturbait dans l'apprentissage. À l'école, je ne réussissais pas aussi bien que ça. J'avais une difficulté, je pleurais, j'étais tétanisée. Et c'est mon grand-père qui, à la maison, me redonnait confiance, s'occupait de moi. Lui, il était autodidacte.
Oui.
Il avait un amour des livres, il s'était arrêté au certificat d'études, ce qui pour l'époque était beaucoup.
Oui.
Et donc, il m'a aidée à reprendre confiance et... C'est vrai que j'ai fait une scolarité après tout à fait normale. Mmh.
Il était d'ailleurs très mal jugé par votre père, votre grand-père, hein,
oui.
qui le voyait comme quelqu'un d'inculte.
Tout à fait, oui. Parce que lui, il n'avait pas pu aller jusqu'au bac, ce que mon père avait fait. Mais à cette génération-là, arrivé au certificat d'études, ben, ma foi, c'était une belle réussite.
Oui, et puis il avait une belle vie en fait.
Oui,
simple.
Tout à fait. Et c'était quelqu'un de très curieux, mon grand-père, puisqu'il était douanier. Après, il est parti, il a quitté les Vosges pour aller travailler à Strasbourg. Mais il a voulu se cultiver.
Mmh.
Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il allait au concert, il allait à l'opéra. Ça, je l'ai su par ma mère. Donc, c'est quelqu'un qui était extrêmement ouvert et qui, finalement, avait beaucoup plus de culture que mon père.
Oui.
Ah,
oui.
Qui le méprisait en disant « Ouais, vous n'avez que le certificat d'études. »
Oh là là, c'est dur quand même.
C'est très dur, ouais. C'est très dur.
Ouais. En tout cas, on a tous envie d'avoir un grand-père comme le vôtre. Hein.
Ah oui, ça je dois dire que j'ai beaucoup de chance.
Boris Cyrulnik dit souvent que la résilience, c'est l'art de tricoter la douleur pour en faire une œuvre d'art. Est-ce que l'écriture a été pour vous ce fil qui permet de recoudre ce qui avait été déchiré ?
Tout à fait, tout à fait.
Ça vous a permis de faire la paix, ce livre, en partie ?
Oui. Oui, oui, je n'ai plus de... J'ai encore un peu de rancune par rapport à mon père, mais bon, ça, il a été tellement violent que... Voilà, donc je l'ai mis de côté, mais je me suis dit que ma mère avait beaucoup de qualités. J'ai eu de très bonnes relations après avec ma mère. Bah, mon frère, voilà, tout est rentré dans l'ordre au fil des années. C'est très réparateur d'écrire.
On continue avec le troisième disque chouchou que j'ai prévu aujourd'hui, un titre de Dina, La maison vide. Voilà, on écoute ça tout de suite et on se retrouve juste après.
Thank you.
Voilà pour ce titre, ce troisième disque chouchou de cette émission. Pour vous, Françoise, voilà, spécialement choisi pour vous. La Maison Vide, eh bien, ça m'a fait penser justement à ce moment, voilà, où vous retournez dans cette maison plusieurs années après n'y être pas allé suite à plusieurs événements douloureux. Et puis un jour, vous retournez dans cette maison. Qu'est-ce qui se passe ?
C'est très douloureux parce qu'en fait, je m'aperçois que rien n'a bougé, les objets sont à leur place et je me sens propulsée dans le passé. C'est à la fois très dérangeant, très, très perturbant parce qu'on perd toute notion temporelle et on se retrouve immergé à une époque qui n'est plus celle dans laquelle on est.
Eh oui.
C'est comme si on ouvrait une porte sur le passé.
Et puis, vous l'avez gardée, cette maison, finalement ?
Eh bien, j'ai hésité. Je suis sortie de la maison et je me suis dit, je n'y reviens pas. Et puis, je me suis dit, bon, je vais marcher un petit peu dans la nature vosgienne. Je vais laisser les émotions sortir. Et je me suis aperçue que non, il ne fallait pas que je la vende. Mmh. Mes racines étaient là, mon cœur était là et ce serait me déchirer une nouvelle fois que oui. De me séparer de cette maison.
Et vous l'avez bichonnée ?
Je l'ai bichonnée, oui. Petit à petit, je lui ai redonné une nouvelle jeunesse. Bon, il a fallu attendre longtemps, hein, plusieurs étés, j'y suis retournée. Voilà, à chaque fois, je soignais une blessure, mais au fur et à mesure, cette maison, elle revivait et remontait en moi tous ces bons souvenirs que j'y avais vécus. Que ce soit... tout ce que les enfants vosgiens ont pu connaître, la cueillette des brimbelles, des framboises, les promenades dans les forêts, oui. Tout ça me remontait et me nourrissait.
Et puis, il y a eu aussi une autre renaissance, hein, c'est l'adoption de votre enfant.
Oui.
Qui rejoint une partie que vous ne connaissiez pas de la vie de votre grand-père parallèlement.
Exactement. Puisqu'en fait, étant célibataire... je n'ai pas pu adopter en France, donc je suis partie à l'étranger et je suis allée en Russie.
Oui.
Donc j'ai ramené un petit russe qui avait, à mon retour, il avait 9 mois.
Et oui.
Voilà, tout jeune. Et puis, je l'ai amené dans cette maison. Il a grandi, il a passé ses vacances dans cette maison. Il l'a aimé. Et puis... je parlais avec ma mère qui nous accompagnait et qui me reparlait de mon grand-père. Et puis un jour, elle me dit que mon grand-père dansait la kalinka. Et j'ai dit, ah bon, moi je ne l'ai jamais vu, enfin, c'est une danse très difficile. Il savait ça et il ne m'a jamais montré. Je dis, mais raconte-moi. Et ma mère m'a raconté que ce grand-père avait participé à la guerre de 14-18, il avait 17 ans et il était dans les tranchées de Verdun. Et il s'était retrouvé avec un Russe avec qui il avait une relation extraordinaire. Ce Russe, à un moment, est reparti en Russie puisqu'il y a eu la révolution d'octobre et que Lénine a ramené tous ces Russes en Russie. Et mon grand-père dansait la kalinka avec ce jeune Russe. Mais il n'a jamais eu de nouvelles de cet ami qui s'était fait, avec qui il avait partagé tant de choses. Il n'a gardé de lui qu'une icône en carton qu'il avait toujours dans son portefeuille, qu'il a gardé sur lui jusqu'à ses derniers jours.
Oui, ça c'est chouette.
Et quand ma mère m'a raconté ça, je me suis mise à pleurer en disant « Tu te rends compte ce que tu me dis ? Moi, je suis allée chercher en Russie un petit garçon.
Ouais.
Et peut-être que mon grand-père aurait aimé retrouver cet ami russe, mais on ne voyageait pas en Russie comme on pouvait le faire plus tard. Et je suis presque allée chercher en Russie l'âme russe que mon grand-père avait perdue.
Ça, c'est fou, mais sans le savoir.
Sans le savoir.
Ouais. Pas de hasard, que des rendez-vous.
Ce qui montre qu'il y a des choses qui passent entre les êtres. Oui. Voilà, cette union, ce lien que j'avais avec mon grand-père, il m'a transmis à la fois l'amour des Vosges. Mais apparemment, il m'a transmis plus que ça, puisque inconsciemment, je me dis, ça ne peut pas être autrement que ça. Oui. Inconsciemment, il m'a transmis cette histoire avec un jeune Russe. Et inconsciemment, je suis retournée là-bas.
Incroyable. Et votre fils, il sait ça ?
Je lui ai raconté, oui.
François, j'aimerais beaucoup que vous nous lisiez votre passage préféré du livre, si vous êtes d'accord.
Ah ben, volontiers.
On vous laisse chercher.
Alors, bah, je l'ai déjà sélectionné.
Eh bien, voilà, sans le savoir, c'est génial.
Vous me le demanderiez. Et en fait, comme mon frère et moi, nous vivions des moments difficiles quand même en région parisienne, dans le creuset familial où il se passait des choses. En fait, quand nous partions dans les Vosges avec mes grands-parents, eh ben, c'était presque une aventure et un paradis qu'on allait rejoindre. Donc, c'est ce passage-là que j'aurais voulu vous lire. C'est donc avec un infini soulagement que nous prenions le large avec nos grands-parents, avides de liberté, d'insouciance, de légèreté, de petits riens qui enchantent la vie, nous partions le cœur gai, ravis de retrouver les grands espaces vosgiens pour nourrir notre soif d'aventure. Là-bas, rien ne venait plus brimer notre appétit de découverte. Chaque sentier, chaque arbre, chaque fleur éveillait notre curiosité et notre émerveillement. Au milieu de cette nature qui s'offrait à nous, flottait un parfum d'évasion que nous prîmes goût à savourer côte à côte. Et au fil de nos retrouvailles, jaillit alors la plus belle des découvertes, le plaisir partagé, le bonheur simple de vivre ensemble les émotions que nous réservait chaque instant au détour d'un chemin. Ainsi, sous des auspices plus cléments, notre relation infléchit son cours vers des pentes plus douces, moins chaotiques. Devenue plus fluide, elle s'apaisa peu à peu. Nous voguions dans la même direction, les yeux rivés sur le même horizon. Terre d'évasion, de liberté, les Vosges s'ouvraient à nous comme un nouveau monde. Notre Americano, c'était les Vosges.
Oh, c'est beau ça. On va se lancer dans un autre petit disque chouchou, histoire d'infuser tout ce que vous venez de nous dire. Et c'est rigolo parce que j'avais choisi Maxime Le Forestier pour San Francisco.
Ah,
ah ben ouais. Voilà, c'est pour ça que je la lance maintenant, ça tombe à pic.
C'est une maison bleue, adossée à la colline. On y vient à pied, on ne frappe pas. Ceux qui vivent là ont jeté la clé. On se retrouve ensemble après des années de route et on vient s'asseoir autour du repas. Tout le monde est là à 5 heures du soir. Quand San Francisco s'embrume, quand San Francisco s'allume, San Francisco, où êtes-vous, Lise des Lucs? Sylvia, attendez-moi. Nageant dans le brouillard, enlacé roulant dans l'herbe, on écoutera ta mala guitare, fil à la quena jusqu'à la nuit noire. Un autre arrivera pour nous dire des nouvelles d'un qui reviendra dans un an ou deux. Puisqu'il est heureux, on s'endormira. Quand San Francisco se lève, quand San Francisco se lève, San Francisco, où êtes-vous, Lise des Lucs, Sylvia, attendez-moi. C'est une maison bleue, accrochée à ma mémoire. On y vient à pied, on ne frappe pas. Ceux qui vivent là ont jeté la clé. Peuplée de cheveux longs, de grands lits et de musique, peuplée de lumière et peuplée de fous, elle sera dernière à rester debout. Si San Francisco s'effondre, San Francisco s'effondre, San Francisco, où êtes-vous, Lise des Lucs, Sylvia, attendez-moi.
Encore encore une chanson qui aurait pu être écrite pour vous, Françoise.
Oui.
Hein. Vous la connaissiez, celle-là aussi, forcément. Alors, c'est une histoire très personnelle qui est racontée dans ce roman, La Petite Maison Bleue, forcément votre histoire. Et pourtant, recevoir le prix de la Plume de Verre montre que votre récit a résonné chez les autres. Et ça, ça doit faire plaisir.
Oui, tout à fait.
Vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça s'est déroulé, ce prix ?
Bien, c'est un petit village, Mandres-sur-Verre,
oui,
qui prime tous les ans un roman local. Voilà, pour récompenser les écrivains régionaux. Alors, il y a des années, quand le niveau n'est pas là, le prix n'est pas attribué.
Ah oui.
Là, je dois dire que j'étais très fière parce qu'on m'a dit que les 7 membres du jury avaient voté à l'unanimité.
Ah oui.
La décision de m'attribuer le prix.
C'est incroyable.
Donc, c'est une reconnaissance pour moi, qui est vraiment très émouvante. Et ce qui est ressorti, c'est que les membres du jury ont été sensibles à la poésie de l'écriture, à la beauté des textes. Il y a l'histoire, bien sûr, mais c'est surtout la façon de la raconter.
Mmh.
Et c'est un peu ce que je disais à mes élèves, parler d'amour, parler de... Il y a plein d'ouvrages qui le font. Ce qui compte, c'est la façon dont on le fait.
Bien sûr.
Le choix des mots, la façon de rythmer le récit. Et c'est ce qui a plu... aux membres du jury.
Et puis la mise en valeur de nos paysages vosgiens.
Oui, puisque effectivement, le prix est attribué à des œuvres qui mettent en valeur les Vosges et la Lorraine.
Mmh.
Et c'est vrai que dans mon récit, l'émotion passait par l'évocation de la nature, le plaisir qu'on a de se promener dans une forêt vosgienne, d'écouter le bruit du vent dans la ramure des sapins, les rencontres qu'on peut y faire... un lièvre, une biche, regarder les champignons, sentir les fleurs, cueillir des fruits. Voilà, la nature vosgienne est magnifique et pouvoir le retranscrire avec les mots, pour moi, ça a été un réel plaisir.
Il y a un autre auteur qui met aussi bien en valeur le patrimoine vosgien, c'est Jérôme Bonnet que vous connaissez. Grâce à lui d'ailleurs est née cette émission, parce que c'est lui qui m'a parlé de vous. Et puis c'est lui qui vous a aussi poussé à aller auto-éditer votre
œuvre. Tout à fait, c'est un ami à qui je dois beaucoup. J'hésitais à me lancer dans l'édition. J'avais essuyé quelques refus des grands éditeurs, bien évidemment, comme ça arrive à beaucoup de gens. Et Jérôme m'a dit, Nana, il faut que tu... Tant pis, tu passes par l'auto-édition, mais ton texte mérite d'être publié. Ne reste pas dans ce sentiment d'échec et lance-toi. Et je lui dois beaucoup, je le remercie.
Comment vous l'avez rencontré, Jérôme ?
Eh bien, il est artiste peintre, lui aussi. Donc, on s'est rencontrés par le biais d'une association pigmentée sur Épinal, à laquelle on appartient tous les deux. Et on s'est rencontrés, on a sympathisé.
Voilà.
Et voilà comment c'est
super.
Tout est né.
Est-ce qu'on peut vous retrouver bientôt en dédicace, quelque part, sur un salon, peut-être ?
Alors, je serai le 19 septembre à la librairie Posez-vous, à Remiremont.
Voilà, chez Maud, que l'on embrasse.
Voilà. Sinon, je serai aussi le 11 octobre à Bulgnéville.
Oui.
Il y a un salon des livres d'occasion et en tant que œuvre primée, j'ai été invitée
génial.
Le 11 octobre.
Est-ce que vous envisagez... une nouvelle phase d'écriture, Françoise ?
Oui, je suis en train d'écrire mon aventure d'adoption en Russie.
Génial. Gros sujet.
Gros sujet. Gros sujet, effectivement. Là, j'y suis depuis plusieurs années.
Ah oui.
Parce que c'est aussi un sujet un peu douloureux, parce que on se dit oui, adopter, voilà, on sait que c'est sur plusieurs années, mais c'est vraiment difficile.
Oui.
Surtout quand on est tout seul, vous avez bien des organismes pour vous aider, mais quand on est célibataire, on se débrouille seul, on fait tout seul.
D'accord.
Et donc, je suis partie seule en Russie plusieurs fois et c'était une aventure.
Oh là là, on a hâte de découvrir ça, Françoise.
C'est bien avancé. Puis après, ce qui est dur aussi, c'est le retour en France, parce qu'en fait, adopter un enfant qui peut avoir des traumatismes, ça n'est pas facile.
Oui, j'imagine.
Donc, il faut pouvoir gérer tout seul l'éducation, les difficultés auxquelles nécessairement on est confronté avec un enfant qui a été abandonné.
Oui, Tout à fait. Et ben, ce sera le sujet d'une autre émission, peut-être.
Et ben Françoise. Voilà, avec plaisir. Merci.
Merci beaucoup d'être venue dans les studios de Radio Guémozo, dans l'odeur du son, pour une première, hein, ensemble. C'était un très bon moment.
Merci pour moi aussi.
Qu'est-ce que je vous souhaite pour la suite ?
Ah ben, d'éditer beaucoup d'autres livres, et ben peut-être voilà. Un autre prix, qui sait.
Et ben voilà, super. Auditeur, je te laisse avec la suite des programmes sur Radio Guémozo. Ce soir, peut-être qu'on se retrouvera sur le festival Résonuance pour sa première date au Toli. Cette émission sera rediffusée vendredi prochain à midi, car quand on aime, on ne compte pas. Elle sera podcastée très prochainement sur nos réseaux sociaux, c'est-à-dire aujourd'hui, si tout va bien. En attendant, auditeur, ben, c'est comme à chaque fois, hein. Tu prends bien soin de toi et tu prends soin des autres. Allez, kiss. I need you.